Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Après nos copains d'attaque qui avaient invité nos amis d'Acrimed 69, on va faire donc un journal d'information ce jeudi 26 avril 2018. Donc, nous allons parler de pas mal de choses, dans le désordre, ou pas dans le désordre, dans l'ordre d'ailleurs. Nous allons parler de liberté de la presse, de l'Arménie, de la Turquie, de l'Afrique du Sud. Quelque chose à voir au niveau de la culture, un spectacle et une expo. On fait une ouverture culturelle sur le Kenya Info de temps en temps quand même. On parlera peut-être un peu de nucléaire et puis après des profiteurs. Donc voilà le petit programme de cette heure en notre compagnie. Nous allons vous rappeler aussi qu'après nous, il y a l'émission anticarcérale de Radio Canu. Bonjour Delphine, tu es prête à parler?
Oui, bonsoir Laurent. Tu dis de temps en temps, mais oui quand même, de temps en temps, nous parlons de BD, de cinéma, de théâtre, d'exposition, de spectacle. Quand même, ça nous arrive. On parle juste pas de métal, vous savez, cette musique qui fait du bruit et de la pollution sonore, parce qu'on se réserve ça plutôt pour ceux et celles qui en ont envie, le vendredi en soirée.
À 20h, tu veux dire.
Voilà, il y a un peu des spécialistes de la chose.
Donc on va commencer par la liberté de la presse, puisque comme d'habitude, comme chaque année, Reporters sans frontières sort son petit rapport 2018, donc qui fait le bilan de l'année 2017, bien évidemment. Sur la frontière, je vais plutôt parler des pays francophones cette semaine, et on parlera un petit peu d'autres pays après. On note que c'est pas la France qui est première dans les pays francophones, faut quand même le savoir. Donc on rappelle quand même que les meilleurs pays non francophones, les pays meilleurs tout court, sont la Norvège et la Suède, hein, qui sont toujours les deux têtes de classement. Les premiers pays francophones sont la Suisse et la Belgique. Alors je parle des pays francophones parce qu'on se dit, nous en parlant français, on peut aller lire la presse belge ou la presse suisse ou la presse burkinabé, alors que moi j'ai du mal à lire la presse russe, la presse turque, voire la presse anglaise, hein. Donc c'est pour ça que je vais axer mon analyse sur ce
parce que tu
que
n'es
je peux
ni
lire.
Trilingue, même pas bilingue.
Non, moi je suis je baragouine à peine le français. Donc ce que note le rapport de RSF, Reporters sans frontières, c'est qu'il y a une haine du journaliste qui monte dans les régimes démocratiques. Cette haine, on la connaissait dans les régimes totalitaires, bien évidemment, mais il y a ce nouveau phénomène qui a plusieurs années derrière lui, mais qui continue de progresser dans les pays dits démocratiques. Alors pour les pays francophones, les deux premiers, donc j'ai dit, c'est la Suisse et la Belgique. 5e place pour la Suisse, hein, c'est plutôt pas mal. Alors ils ont donné un très bon exemple il n'y a pas bien longtemps, puisqu'ils avaient une votation, vous savez, c'est les référendums d'initiative populaire, qui demandait à supprimer la redevance audiovisuelle et donc à démanteler tout le service public de l'information, qui est très important quand même en Suisse. Et les Suisses ont rejeté à 70%, donc à une large majorité, cette votation. Ce qui fait que la Belgique va garder un service public. Alors, on imagine qu'à Cuba, qu'en Russie, un service public, ça existe, de l'information, mais du coup, elle n'est pas très libre. En Suisse, elle l'est beaucoup plus, bien que ce soit un service public, donc il y a un État derrière, il y a une énorme liberté. Donc voilà. La Belgique est très bien classée aussi. Il faut dire qu'elle a une loi, plusieurs lois qui protègent beaucoup les journalistes et leurs sources, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Donc ça permet aux journalistes d'être beaucoup plus libres qu'ailleurs. Alors après, dans les pays francophones classés, il y a le Luxembourg, on va pas mettre le Canada dedans, hein, parce qu'il y a la partie québécoise. Ils sont respectivement en 17e et 18e position, donc toujours au-dessus de la France. J'ai pas encore donné le classement de la France. Donc ils sont plutôt bien. Alors, c'est en régression, hein, le Canada, comme la France, a voté une loi antiterroriste qui met en danger la liberté d'expression, notamment sur Internet. La loi, elle s'appelle C-51. Donc il y a des petits soucis. Il y a un journaliste de Vice qui est en procès au Canada et à qui la justice demande de balancer les sources. Donc voilà, une non-protection des sources qui est quand même la base du travail journalistique. Donc voilà, le Canada n'est pas dans la voie du progrès. Bon, il est encore très bien classé parce qu'il y a quand même une grosse liberté de la presse. Bon, le Luxembourg est pas dans la voie du progrès non plus, malgré son classement. On rappelle que le lanceur d'alerte, Raphaël Halley, celui qui est à l'origine des LuxLeaks, il n'est pas protégé, il est poursuivi pour avoir balancé le système quasi mafieux de protection des évadés fiscaux. Donc voilà, ils aiment pas tant les journalistes que ça. En fait, au Luxembourg, faut pas toucher à la finance et aux évadés fiscaux. Quand on est journaliste, vous pouvez toucher à tout le reste, mais pas à ça. Du coup, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour un des pays qui est quand même encore classé 17e. Et puis après, on arrive dans les pays francophones à la France. 33e. Alors, la France progresse, bizarrement, de 6 places, mais elle a la même note. Elle à peu près la même note. Alors, elle progresse parce que d'autres pays régressent. Enfin, il y a une mode, hein, en ce moment, de régression. Dans le classement et grosso modo une régression importante de la liberté de la presse suite à la montée des nationalismes et des en dehors des régimes autoritaires, hein, notamment dans les régimes dits démocratiques. Donc la France, elle bouge, on va dire, elle bouge pas au niveau du score, mais elle monte un peu au niveau des places grâce au mauvais travail des autres. Alors, il faut savoir qu'il y a des chances que la France baisse pas mal l'année prochaine, puisque le gouvernement de M. Macron a fait passer la loi sur le secret des affaires, qui donne la priorité au capitalisme et au secret des affaires sur le droit d'informer, et donc les journalistes ne sont plus protégés et les lanceurs d'alerte ne sont plus protégés. Alors il y a un projet de loi sur les lanceurs d'alerte au niveau de l'Europe qui pourrait un peu combler les failles de cette loi du secret des affaires que la France n'était pas obligée de traduire sous cette forme-là. Il y avait une loi, il pouvait faire quelque chose de beaucoup plus respectueux de la liberté de la presse, mais Macron étant issu du monde économique, il veut protéger avant tout les patrons et pas du tout les salariés et les journalistes. Quand on va sur l'Afrique, bon alors l'Afrique c'est toujours pas très bon, même si c'est des pays qui s'en sortent pas trop mal, le Burkina notamment qui est en 41e place. Le dernier pays francophone, c'est le Burundi, en 159e. Alors là, la France a une grosse partie de responsabilité en soutenant les régimes qu'elle a aidés ou soutenus, hein, ces régimes peu démocratiques, ce qui n'est pas le cas du Burkina aujourd'hui, suite à la phase de transition. Mais du coup, la France a une grosse responsabilité dans les mauvais états de ces dictatures africaines liées à la France-Afrique, issue de des pays colonisés par la France avant les années 60. Donc voilà, alors le rapport après parle aussi de tous les autres pays, du fait que des démocraties importantes comme les États-Unis d'Amérique ont des dirigeants qui appellent à la haine et au mépris de la presse et des journalistes. C'est le cas avec Donald Trump, bien évidemment. Il y a aussi la complaisance qu'il peut y avoir de certains politiques avec des journalistes. Alors heureusement, en fait, ils sont tous contre la presse, hein. Macron a fait des descentes sur la presse, sur le service public d'ailleurs, a dit que c'était une honte. Le service public de la presse et de la radio. En fait, heureusement, ils ont des journalistes collabos, hein, puisqu'on a vu Macron chez Jean-Pierre Pernaut et avec les deux autres Lascar, là où c'était plus du sketch sans fond politique profond, hein, c'était voilà de la petite bataille de mots, mais pas plus loin que ça. Donc voilà, il y a quand même aussi de la complaisance, et voilà. Mais il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. On rappelle qu'aux Philippines, le président autoritaire Rodrigo Duterte a dit que être journaliste, ça préservait pas des assassinats. Donc c'est une légère incitation à tuer les journalistes. Bon, en Birmanie, on a deux journalistes de Reuters qui sont en taule. Alors eux, ils ont eu comme tort, on va dire, de couvrir le massacre des Rohingyas, la minorité musulmane une des minorités musulmanes de Birmanie, et le procureur a requis 12 ans de prison contre eux. Il faut savoir qu'il y a des procès contre les militaires qui ont massacré ces Rohingyas, et eux, ils risquent 10 ans de prison. Voilà, vous pouvez massacrer, vous risquez moins que journaliste. Bon, bref, c'était le petit rapport sur l'état de la presse pour la Turquie, puisqu'ils sont dedans, j'en parlerai juste après, puisque je vais faire un gros truc sur la Turquie dans quelques minutes.
Alors on va reparler de ce qui se passe et de ce qui s'est passé en Arménie. Je vous rappelle un petit peu les faits. Depuis le 13 avril, les Arméniens et les Arméniennes sont dans la rue contre Serge Sarkissian, à ne pas confondre avec Armen Sarkissian, le président actuel. Serge Sarkissian, il a été pendant une décennie président, et puis par un tour de passe-passe, il a réussi à devenir Premier ministre, ce qui n'a pas bien plu aux Arméniens et aux Arméniennes, qui sont donc descendus dans la rue. Une décennie, hein, je vous le disais quand même, avec un tour de passe-passe, alors qu'il n'aurait jamais dû être Premier ministre, il faut bien le dire. Et puis, de l'autre côté, il y a un chef leader, meneur de l'opposition, en tout cas il est présenté comme ça, c'est un député qui est assez jeune, hein, il a une quarantaine d'années, c'est un ancien journaliste, il s'appelle Nicole Pashkinian, il est présent dans ces manifestations, il est très médiatisé, donc parce qu'il y a aussi quand même une presse d'opposition en Arménie. Je vous rappelle, c'est un tout petit pays, hein, l'Arménie, qui est pas très peuplée, on en a parlé la dernière fois. Alors, il y a eu du nouveau après ces premières manifestations. On peut déjà vous dire tout de suite que M. Sarkissian a dû démissionner. Ça, c'est lundi, donc ces manifestations ont porté leurs fruits, il faut bien le dire. Mais alors, il faut savoir que dimanche, il y a eu une manifestation à Erevan et on a envoyé donc encore une fois la police contre ces manifestants et ces manifestantes. Alors, Serge Sarkissian est allé à la télévision. Hein. Il est allé rencontrer ce fameux ex-premier ministre, maintenant, Cher Sarkissian. Et alors, ça a été un peu une bataille de mots sans intérêt, puisque Cher Sarkissian a décidé de quitter la table de la discussion. Ça, c'était une belle démocratie. Il a dit que c'était du chantage. Et puis, il s'en est pris à Nicole Pashkinian et son parti en expliquant qu'un parti qui a enregistré un score de 8% aux élections législatives ne peut pas parler au nom du peuple. Pourtant, il semble que le peuple soit quand même en partie descendu dans la rue et que ça soit pas juste pour suivre Nicole Pashkinian, même si, effectivement, son parti a été quand même à la manœuvre d'un certain nombre de manifestations. Eh ben, Nicole Pashkinian, quand il est ensuite allé à la manifestation, il s'est fait arrêter. Et oui, c'est ça la belle démocratie façon arménienne, hein, mais bon, vous allez me dire, de partout ça arrive un petit peu comme ça, mais avec lui il y a eu des députés d'opposition qui ont ici été arrêtés, interpellés. Alors il paraît qu'ils ont commis des actes dangereux pour la société, je cite le parquet général, qui a accusé ces députés, dont Nicole Pashkinian, d'avoir violé de manière répétitive et grossière la loi sur les manifestations en organisant des défilés et des meetings illégaux et en appelant à bloquer les routes et paralyser le fonctionnement des établissements publics. Puisque je vous le rappelle, hein, la dernière fois on en avait discuté, des manifestants et des manifestantes avaient tenté de s'accaparer, de s'approprier, d'occuper quelques bâtiments publics, en tout cas représentant l'Arménie. Ça n'avait pas très très bien fonctionné, déjà ils s'étaient pris la police dans les dents. Tous et toutes. Donc là, on a quand même un peu une espèce de censure assez facile, hein, contre des députés. Heureusement, c'est pas si simple en Arménie d'arrêter des députés, donc ils ont été relâchés. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a une centaine de manifestants et de manifestantes qui ont été arrêtés. Hein. Hop, allez hop, ça a été la NAS, là aussi, comme nous, on connaît très bien ici. Et puis les gens ont été embarqués. Monsieur Sarkissian, depuis, dit que mais non, il a pas voulu envoyer les forces pour disperser les manifestations et puis que oui, il se retire parce qu'il a voulu satisfaire à la demande pour l'harmonie du pays, je le cite. C'est très beau quand même, les politiques, quand c'est mis au pied du mur. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où il y a eu donc la démission de M. Sarkissian et de son gouvernement qui a suivi, il y a 7 jours pour proposer des candidats au poste de Premier ministre. Il y a une réunion qui est fixée au 1er mai par le président du Parlement, M. Monsieur Babloyan, pour l'élection du nouveau Premier ministre. Alors là, ça risque d'être très très compliqué, puisque le Parti républicain d'Arménie, le parti de Monsieur Sarkissian, dispose d'une belle position hein, quand même dans ce Parlement qui compte 105 sièges. Il en faut 40 pour pouvoir être Premier ministre. Il en faut, 53 pour être Premier ministre. Le truc, c'est que Monsieur Pachinian, lui, ne pourrait compter tout ça du conditionnel que sur 40 voix au niveau des députés, donc on risque d'être loin du nombre suffisant pour pouvoir être Premier ministre, ce qui voudrait sous-entendre que le parti de M. Sarkissian risque de proposer un nouveau Premier ministre et que c'est ce Premier ministre qui risque encore de gagner, donc on risque un peu de se retrouver dans une position où ce parti va encore gouverner l'Arménie, ce qui ne semble ne pas du tout plaire hein, aux Arméniens et aux Arméniennes qui sont depuis hier redescendus dans la rue et qui demandent au parti de se retirer, le Parti républicain d'Arménie, de se retirer une bonne fois pour toutes et de laisser la démocratie se mettre en place, puisque je vous rappelle encore, il ne faut pas oublier que M. Sarkissian a fait un tour de passe-passe pour passer de président à Premier ministre alors qu'il n'aurait pas dû, donc c'est là où les gens commencent à gueuler, et puis je vous rappelle qu'il y a beaucoup de corruption en Arménie et c'est aussi pour ça que les gens descendent dans la rue. Alors ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir aussi la position de la Russie.
Ben oui, qui s'en mêle, forcément.
Qui s'en mêle, bien évidemment. Je vous rappelle qu'entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a le Haut-Karabakh, un territoire qui n'est reconnu par personne, qui est. Pratiquement personne dans le monde, qui est revendiqué.
Par l'Arménie.
Par l'Arménie, mais qui est aussi souhaité par l'Azerbaïdjan. Donc ça avait amené à l'époque une guerre, c'est encore un territoire qui est sous tension. Quand vous allez au Karabakh, hein, vous faites un petit visa sur votre... Vous êtes encore obligé de payer, pourtant c'est censé être un territoire arménien, mais qui est autonome, et pourtant qui reconnaît ce qui se passe en Arménie. Donc c'est un petit peu tendu toujours ce qui peut se passer là-bas, et la Russie a toujours voulu mettre son nez dans ce territoire, et sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pourquoi ? Parce que c'est des anciens pays satellites de l'Union soviétique, donc on se retrouve un petit peu comme la France peut faire avec certains pays ou territoires, c'est-à-dire qu'on a toujours ce côté un peu impérialiste, colonisateur, on continue à y mettre son nez, c'est exactement ce que fait la Russie. Alors la Russie explique qu'on ne fait que regarder pour la paix.
Oui, bien sûr, on les connaît.
Voilà. Moscou voudrait se poser finalement en médiateur. On est là pour amener la paix, la sécurité aux citoyens et aux citoyennes en Arménie. On va voir un petit peu comment ça va se passer tout ça, mais il faut savoir que la Russie a un poids économique assez important en Arménie, donc c'est aussi pour ça que la Russie met son doigt dedans, et puis que finalement ça allait bien avec M. Sarkissian, il y avait des espèces d'affinités qui pourraient ne plus se produire à l'avenir si jamais il y avait un parti d'opposition qui arrivait en Arménie. Donc c'est encore une affaire à suivre, puisque là il va falloir maintenant attendre donc la semaine prochaine pour savoir qui va être élu Premier ministre.
Voilà, l'Arménie dépend quand même encore beaucoup de la Russie.
Ah, complètement.
Notamment sur la centrale nucléaire hein, qu'ils ont, puisqu'ils sont incapables forcément de gérer totalement le cycle du nucléaire, et c'est bien avec les Russes qu'ils le font, puisque c'est une centrale qui a été construite à l'époque par les Russes.
Et il y a une base militaire russe en Arménie.
Alors, on va rester juste à côté avec l'ennemi juré.
C'est ça. J'aurais pu dire d'ailleurs juste que c'était il y a eu une espèce de consensus malgré tout, puisque mardi, il y a eu des commémorations sur le génocide arménien, voilà. Ce qui était aussi une transition pour passer à la Turquie. Voilà.
Exactement. Le pays génocideur des Arméniens. Alors c'est un peu un complément, il y a une suite et un rappel des informations de la semaine dernière, puisque la Turquie est à nouveau dans l'actualité, enfin il y a toujours de l'actualité dans tous les pays en permanence, me direz-vous. Mais là on est sur de l'actualité importante, puisque c'est la condamnation, la première condamnation, la grosse condamnation du journal Cumhuriyet, donc ça veut dire République en turc, qui est tombée puisque ils ont été condamnés. Alors c'est 13 journalistes et collaborateurs du journal qui ont été condamnés entre 2 ans et demi et 8 ans de prison. Ils ont déjà. Alors le patron du journal, le directeur, c'était le seul qui comparaissait libre, a été remis en liberté puisqu'ils ont fait appel tout de suite de la condamnation. Lui, il a dû prendre 7 ans et demi. Ce qui est déjà pas mal. 542 jours de prison, il a déjà fait, hein, donc ça, ça commence à faire beaucoup. Alors ce journal, hein, qui est un quotidien, c'est un des gros groupes ou plutôt journal de presse indépendante et de, surtout d'opposition en Turquie, il en reste pas beaucoup. Une presse, hein, que le régime quasi totalitaire de Tayyip Recep Tayyip Erdogan s'attelle à faire taire, hein, depuis déjà pas mal d'années, et le coup d'accélérateur a été le prétexte du putsch manqué de juillet 2016. Donc là, le procès a duré quand même 9 mois. Donc ils sont condamnés pour aide à des organisations terroristes, parce qu'ils auraient collaboré avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Organisation qui est bien sûr, comme tout ce qui touche aux Kurdes, considéré comme terroriste. Voilà, en réaction, le journal Cumhuriyet aujourd'hui a fait sa une avec un titre qui disait « Le journalisme n'est pas un crime ». Donc ils continuent, ils vont jusqu'au bout, hein, c'est bien, ils lâchent pas du tout l'affaire. Alors faut savoir qu'en 2 ans, donc depuis ce fameux putsch manqué, une centaine de médias ont disparu en Turquie, je donnerai le chiffre tout à l'heure exactement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les différents prétextes, alors il n'y a pas que les journaux d'opposition directe, il y a aussi les anciens amis de Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP, puisque Fethullah Gulen, qui était autrefois allié à l'AKP, et aujourd'hui est considéré comme à l'origine du putsch. Et donc tout ce qui tourne autour de ce personnage et de sa mouvance politique et religieuse est attaqué par Recep Tayyip Erdogan, donc notamment les journaux aussi qui étaient proches de ce courant politique et religieux. Donc voilà, alors faut savoir que la Turquie est aujourd'hui dans le classement de tout à l'heure là, de RSF, 157e sur 180, donc ils sont pas loin d'être au bout du bout. Donc ça commence à faire pas mal. Alors il y avait une manif aujourd'hui d'organiser à Istanbul pour la liberté de la presse. Le patron du journal, à la sortie du procès, est directement allé à la manifestation. Donc voilà, on signera quand même ce courage de ces résistants à l'autoritarisme du président dictateur Erdogan. Alors, toujours, je vais revenir un peu sur l'organisation des élections. Ça a été redit la semaine dernière, puisque Erdogan a changé le planning, l'agenda des élections. Alors avec une explication qui est intéressante, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Alors faut dire qu'aujourd'hui il avait un gros rendez-vous, monsieur Erdogan, avec Devlet Bahçeli, j'espère que je me trompe pas trop dans la prononciation. C'est un président du parti qui s'appelle MHP, parti du mouvement nationaliste. C'est donc l'extrême droite religieuse, beaucoup religieuse mais extrême droite turc. Donc il avait rendez-vous avec ce monsieur, et il a qualifié donc cet entretien de positif. Ils sont vraisemblablement d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Bon bref, Erdogan a redonné un gage d'amour avec ses alliés d'extrême droite. Alors le principal sujet de discussion a été bien sûr l'anticipation d'un an et demi des élections qui arrivent bientôt, notamment les élections présidentielles. Alors, il y a tout un vocabulaire qui est utilisé par Erdogan, donc il parle de renaissance de la Turquie, donc il explique pourquoi il accélère les choses. Il dit voilà, il utilise le mot milad qui veut dire renaissance ou naissance. Donc pour lui, il y a quelque chose d'important qui s'est passé après le coup d'État, la renaissance, la naissance d'un nouvel État turc qui veut amener jusqu'au bout. Alors il a commencé à modifier la constitution grâce à un référendum l'année dernière. Là, il avance les élections présidentielles, alors qu'il est déjà président. Donc, grosso modo, il a expliqué que l'ancienne république turque était un vieux système malade. Alors, ça laisse entendre, voilà, que cette république était laïque et qui laissait de la liberté aux gens, c'est un système malade. Donc lui, il transforme ça, il supprime la liberté et la laïcité. C'est de ça dont il est question dans son discours de naissance et de renaissance. Alors, suite à ça, quelle réaction on a eu? Bah, assez peu, en fait. Alors, on va noter une réaction du Conseil de l'Europe qui est intéressante, même si elle n'obligera pas Erdogan à faire quoi que ce soit, puisque c'est la commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui se prononce sur les pays qui sont membres de ce Conseil de l'Europe. Et la Turquie est membre, hein, du Conseil de l'Europe. Et elle dit, donc elle est censée être représentative des 47 États qui sont membres de ce Conseil, bah que les élections telles que le prépare la Turquie ne sont pas des élections démocratiques. et que les résultats ne seront pas acceptables en référence à une démocratie digne de ce nom. Alors ils expliquent pourquoi, hein, ils disent ben voilà, normalement il faut au moins, eux ils estiment qu'il faut au moins changer le calendrier et donner une date 3 mois après l'annonce du changement de calendrier pour laisser le temps à l'opposition de réagir. Là il y a à peine 1 mois et demi, du coup ils estiment justement que ben, l'opposition qui vient de découvrir les choses en 1 mois et demi n'aura pas forcément le temps de s'organiser, alors qu'Erdogan il se prépare depuis un moment. Donc ça c'est la première chose. Il y a aussi le fait que le seuil électoral soit à 10%, ça élimine les petits partis. Alors en général il y a d'autres pays en Europe qui ont ça, mais enfin bon là c'est un gros taux, c'est le plus fort taux qui existe en Europe, les 10%, et ça aussi c'est rejeté par cette commission du suivi de l'Assemblée parlementaire. Bon, ça aura aucune conséquence, mais c'est au moins un bout de l'Europe qui signale qu'il y a un problème de démocratie. C'est plutôt à signaler. Et puis toujours en lien avec la démocratie turque qui est en déconfiture, c'est le rapport d'Amnesty International, donc qui s'intéresse tout ce qui concerne les droits de l'homme, qui viennent de sortir aujourd'hui et de le publier, donc leur rapport sur ce qui se passe en Turquie. Et là ils disent, je cite, la Turquie a imposé un climat de peur glaçante. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, ils constatent les purges, 50 000 personnes arrêtées, 140 000 personnes limogées, 180 médias, donc là on a le chiffre complet, ont été fermés, 1300 associations ont été dissoutes. Donc là c'est le chiffre voilà, qui sort aujourd'hui dans le rapport d'Amnesty International, qui doit augmenter tous les jours, hein, je pense. Donc il doit dater de quelques jours, le temps qu'ils finissent de rédiger ce rapport. Il faut savoir que le président d'Amnesty International en Turquie est en prison depuis juin 2017. Enfin, il y a tous les opposants. Voilà. Le rapport se penche aussi sur la communauté LGBTI, donc lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et intersexe, qui sont, on va dire, poussés, d'après ce que dit le rapport, poussés vers la clandestinité. En effet, ils ont constaté que plusieurs rassemblements ont été interdits ces derniers mois, rassemblements concernant la communauté LGBTI. Recep Tayyip Erdogan a annoncé que pour l'instant, tous les rassemblements organisés par la communauté LGBTI seraient interdits. C'est pas mal quand même. On sent que la prochaine étape, ça va être l'interdiction définitive de tous les mouvements LGBTI, et l'étape suivante, ça va être la criminalisation de l'homosexualité et de ces gens-là qui iront en prison. On sait que Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, sont un parti conservateur religieux, qu'ils sont littéralistes hein, sur la lecture de leur texte religieux, qu'est le Coran, et du coup le Coran incite à la mort des homosexuels. On sent que la Turquie bascule, alors ils n'en sont pas encore à la mort des homosexuels, ils en sont pour l'instant l'interdiction des manifestations. On ne sait pas quelle étape ils vont franchir la prochaine fois. Ça semble en tout cas mal parti pour cette communauté et aussi donc pour les défenseurs des droits de l'homme. Voilà, donc pour cette partie turque qu'on a faite la semaine dernière et cette semaine, parce que je pense que la situation quand même est très dégradée.
On va partir en Afrique du Sud où des manifestations se sont déroulées hier, mercredi. Il y a eu à peu près 10 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour s'opposer à l'introduction d'un nouveau salaire minimum et à des nouvelles règles qui pourraient limiter le droit de grève. Alors vous allez me dire, comment ça, un salaire minimum, on s'y oppose ? Alors pour tout vous dire,
c'est bizarre parce que d'habitude c'est un combat.
Plutôt. Alors. Oui, mais c'est pas si simple la vie.
Il est un peu bas, tu veux dire.
Alors, déjà, juste pour rappel, le salaire mensuel médian en Afrique du Sud, il est de 10 000 rands, c'est environ 660 euros. C'est bas.
Oui.
Il faut le reconnaître. Et ce salaire minimum serait donc de 20 rands par heure, ce qui veut dire à peu près 1,30 euros. Je viens de vérifier sur ma petite application pour bien voir le taux, 1,30 euros de l'heure. C'est bien, ça fait un petit salaire minimum. Alors, il faut savoir que ces manifestants et ces manifestantes sont descendus dans la rue à l'appel du South African Federation of Trade Unions, c'est-à-dire la Fédération des syndicats sud-africains. Cette fédération, elle a été lancée il y a pratiquement un an, c'était le 21 avril 2017, en opposition à la centrale historique de l'Afrique du Sud, c'est la COSATU, le COSATU plutôt, puisque c'est français Congress of South Africa Trade Unions, qui est un syndicat qui a été fondé en 1985 de mémoire et qui est toujours très proche, en tout cas un petit peu moins, mais qui a été très proche de l'ANC.
Du régime au pouvoir, voilà.
Donc, l'ANC étant largement remise en question ces dernières années, l'Akosatu qui a été quand même accusé de co-gestion avec l'ANC, avec des dirigeants, s'est retrouvé un petit peu embêté. Et ce nouveau syndicat, cette nouvelle fédération, il faut dire, a réussi dès l'année dernière à sa création à attirer 700 000 membres. Il faut dire que c'est aussi des syndicats très forts qui existaient déjà, qui étaient sous la centrale historique, comme les métallos, qui sont passés auprès de cette nouvelle fédération, qui donc dès le départ a eu un poids très très important. On dit qu'aujourd'hui il y a 800 000 membres au sein de cette nouvelle fédération, qui donc veut s'opposer aussi à ce président qui à la base est un ancien syndicaliste, mais aujourd'hui fait un petit peu du pognon et du profit, puisque c'est quand même aujourd'hui un homme d'affaires.
Oui, puis c'est un millionnaire.
Et c'est, je veux dire, on a toujours ce rapport de classe très très fort, cette ségrégation, excusez-moi, très très forte en Afrique du Sud.
Ouais, l'ANC, c'est un parti qui s'est construit sur la lutte pour le droit des Noirs d'exister dans leur propre pays. Donc c'est une aura importante. Par contre, politiquement, économiquement, c'est un parti qui est plutôt libéral. Donc effectivement, ils sont pas allés dans le sens du droit des travailleurs en permanence.
Oui, et puis il faut dire aussi que il y a une fédération qui s'est aussi créée parce que il y avait plus le droit dans la Akosatu de critiquer ce qu'avait fait par exemple monsieur Jacob Zuma. Donc il y a des syndicats qui ont été exclus de cette centrale historique. Donc ils ont été chercher comment s'organiser à côté, et ces syndicats se sont remontés avec une fédération qui est aujourd'hui très très forte et qui emmène donc les gens dans la rue contre des modifications du droit de grève et puis contre ce salaire minimum. Alors, effectivement, il est très bas. L'Akosatu a refusé d'aller dans la rue en disant ce salaire minimum va permettre à des travailleurs et des travailleuses d'avoir un salaire correct pour vivre, minimum, plutôt que de se faire complètement exploiter. Du côté la SAFTU, on dit non, ça va enraciner la pauvreté, parce que ce salaire est très très bas et qu'on donne finalement au patron la possibilité de nous embaucher à un tarif qui va continuer à nous exploiter. Donc on s'oppose à ça, il fallait créer quelque chose de plus important et de plus haut. Reste qu'en Afrique du Sud, on a aujourd'hui un pays qui est toujours dans la galère politique. Il n'y a pas beaucoup de stabilité. Il y a des partis qui se créent sur le communautarisme haineux chez les Blancs et chez les Noirs.
Il y a une corruption énorme.
Il y a une corruption très importante. Il y a un lobby très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président en place veut réquisitionner les terres de ces fermiers blancs qui ont exploité, qui ont viré les hommes et les femmes noirs qui vivaient sur leurs terres pour, évidemment, leur propre profit. Et il veut y avoir une réquisition de ces terres, ce qui amène à des dérapages très importants. On sait qu'il y a des fermiers blancs qui ont été exécutés, assassinés dans leur maison. Femmes, hommes, enfants, hein. C'est pas non plus des solutions. Donc il y a une espèce de guerre intérieure qui se crée. Il y a des quartiers avec complètement pourris dans lesquels les gens ont du mal à aller à l'éducation, à avoir un travail. Les droits sociaux se sont réduits. Donc c'est pas un pays qui est en plein développement.
Pourtant c'est la première économie d'Afrique.
Mais pourtant il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités et le pays a du mal à se construire autrement, alors qu'à un moment on y avait cru, avec la fin de l'apartheid, les choses pourraient changer, mais c'est pas le cas.
Tenter de résoudre le problème de discrimination, ce qu'ils sont arrivés à faire en très très grande partie quand même, mais par contre pas les discriminations sociales. Et on a énormément de noirs pauvres, mais du coup ils ont créé aussi, ils ont des blancs, alors issus, alors on peut dire c'est des anciens colons, tout ça, on peut en parler, on peut les rejeter totalement, ce que veut faire là ce président, et du coup ils font un racisme dans l'autre sens en disant vous nous avez colonisés, vous vous barrez, sauf que c'est pas eux qui ont colonisé, c'est leurs parents, leurs grands-parents, du coup on n'est pas toujours responsable de l'action de ses parents, mais en fait, le problème, c'est un problème social. C'est qu'ils n'ont jamais voulu s'attaquer à la misère sociale, pas correctement et pas de manière efficace. Ils ont surtout profité de l'arrivée au pouvoir pour que les têtes s'enrichissent et que, en dessous, les gens continuent à rester pauvres. Et ils n'ont pas basculé sur un régime un peu social pour essayer de mettre en œuvre une vraie politique sociale. Et là, ils sont en train d'avoir le retour de bâton. Et du coup, maintenant, il y a du communautarisme qui se remet en place de manière très forte. Et le système va péter et ils vont tendre vers la guerre civile s'ils continuent à faire ça. Donc c'est un petit peu dommage. À la sortie de l'apartheid, effectivement, on avait d'autres espoirs sur l'Afrique du Sud.
Oui, bah, en même temps, l'apartheid est un régime tellement
horrible,
on va même pas chercher notre vocabulaire, qu'effectivement, tout le monde était soulagé, en tout cas nous l'étions. Je vais juste rectifier ce que j'ai dit, c'est le salaire mensuel à 660 €, c'est pour les Blancs. Pour les Noirs, qui sont donc majoritaires, rappelons-le, il est de 2800 rand quand il était 10 000 rand pour les Blancs. Donc, vous voyez, il y a un gros écart.
C'est le salaire médian, donc c'est effectivement, même s'il y a, je parlais tout à l'heure de ces Blancs pauvres en Afrique du Sud, ils ne sont pas majoritaires. Hein, c'est en train de se développer, mais il y a effectivement, historiquement, les Blancs sont restés quand même pas mal maîtres de l'économie. Hein, c'est l'histoire de la décolonisation qui marche pas dans l'Afrique francophone, c'est la même chose. Hein, les Blancs sont restés maîtres du pouvoir économique. Et ça, effectivement, la fin de l'apartheid et l'arrivée de l'ANC n'a pas résolu ce problème-là non plus. Et ils n'ont pas travaillé sur le partage des richesses. Ils ont essayé c'est le cas de ce président, de s'enrichir eux-mêmes, en fait. Et pas de casser le capitalisme, mais d'essayer de faire du capitalisme noir. Et en fait, c'est jamais la solution.
Bah non, mais après, c'est un rapport de classe. Et on en revient toujours à ça, quelle que soit la couleur de ta peau. Si tout ce qui t'intéresse est le profit, tu restes dans un système de classe. Et évidemment, on sait aujourd'hui que la majorité noire qui est pauvre a du mal à accéder à l'éducation et que sans éducation, on a du mal aussi à pouvoir prétendre à un certain nombre d'emplois dans le pays, à pouvoir aussi entrer en politique et donc à pouvoir aussi changer les choses, puisque là, vous êtes mis à l'écart et donc vous êtes discriminé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Afrique du Sud. On va maintenant s'attaquer à deux rendez-vous culturels qui vont continuer à nous faire parler de l'international. On va vous raconter notre passage lors de l'exposition Hugo Pratt, Line d'Horizon, mais je vais commencer d'abord par un spectacle que j'ai été voir au Théâtre de la Croix-Rousse. Et je suis très très méchante parce que je vais vous parler d'un spectacle, il n'y a plus de place, je crois.
Ouais, parce qu'il joue encore
Jusqu'à samedi. Ouais. Jusqu'à samedi, je crois que c'est ça. Enfin bon, vous pouvez toujours aller voir sur le Théâtre de la Croix-Rousse. On va vous dire que vous ne pouvez plus acheter en ligne, mais vous pouvez toujours téléphoner pour savoir s'il reste des places. Mais comme je sais que, par exemple, il y a un Lillois qui nous écoute, peut-être que vers chez toi, écoute, le spectacle va passer. Je vais vous parler du spectacle We Love Arabs de Hillel Kogan. C'est un spectacle qui donc a été présenté à Avignon, qui a un succès magnifique, et c'est bien normal que ce spectacle de Hillel Kogan fonctionne très très bien. Alors c'est un spectacle qui est déjà court dans sa forme, 55 minutes. Moi, je trouve ça magnifique d'arriver à proposer quelque chose d'aussi chouette et d'aussi synthétique par rapport à des spectacles où des fois, même au cinéma maintenant, on va voir des films, ça fait 2h30, les gens ne savent plus faire court et efficace. Là, c'est absolument magnifique. Alors Hillel Kogan, il est israélien, juif, israélien, il est danseur, chorégraphe, et il fait aussi de la comédie, et il se met en scène dans ce spectacle We Love Arabs, qui déjà nous interpelle par
On aime
titre.
Les Arabes, ouais, bon.
Voilà. Alors, il est sur
c'est
scène.
C'est de la provoque, j'imagine.
Avec un autre danseur, Adi Boutrou. C'est très simple, hein. Il y a un rideau noir sur scène, ils sont tous les deux sur scène, point. Final, c'est très simple et très efficace. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je vous le dis tout de suite. Alors, il s'agit d'une farce avec une sarcasme et une ironie qui pointe les discours bien pensants sur les rapports entre les Juifs et les Arabes, sur le partage de l'espace, de la terre, sur les rapports donc entre les Juifs et les Arabes. Le chorégraphe se moque aussi des symboliques de la danse contemporaine, de ceux et de celles qui proposent souvent des degré de lecture absolument incompréhensible. Et il y a beaucoup d'autodérision dans ce spectacle. Alors, c'est assez simple, on va suivre les répétitions d'un projet autour de la coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Le chorégraphe Hillel Kogan va créer une pièce et il veut parler de l'espace. Alors d'abord, il parle tout seul de l'espace, il danse, il parle, il se met en scène. Et dans cet espace, il va donc aller chercher un danseur arabe pour lui faire contrepoint. Et donc, il va nous expliquer qu'il est de gauche. Alors, très sincèrement, tout ce qu'il va nous raconter, Hillel Kogan, on s'en doute, parce que c'est une vraie caricature du juif israélien de gauche qui se dit bien pensant, pas raciste, mais qui, au fond...
Mais qui, dans les faits, voilà.
Est quand même bien raciste.
Du coup, en fait, il représente un peu le parti travailliste israélien qui a été un traître très longtemps, aujourd'hui, à la cause palestinienne.
Qu'il y arrête, donc tout va bien pour lui. Mais il va être tout de suite dans une relation hiérarchique avec son danseur arabe, pratiquement, il va être un peu patron salarié, si vous voulez ce que je veux dire, dans un paternalisme assez important. Il va très très peu le laisser parler, Hadi Boutrouche. D'ailleurs, on leur donne très peu la parole, hein, aux Arabes en Israël, d'une manière générale, et puis sur les Palestiniens. Et donc, c'est de ça qu'Hillel Kogan veut nous parler, de cette gauche bien pensante, qui laisse finalement peu de place aux Palestiniens et aux Arabes. D'ailleurs, ça va commencer assez vite, le rapport entre eux, puisqu'ils vont se marquer. Hillel Kogan va demander à son danseur arabe de le marquer avec une étoile de David, ce qui fait réagir la salle. Tout de suite, une salle pleine au théâtre de la Croix-Rousse. Tout de suite, vous avez ce son qui monte de la salle. Comment ça, une étoile de David? Ça nous rappelle des choses pas belles. Et pourtant, c'est Hillel Kogan qui le fait. Et lui-même va marquer sur le front son danseur arabe avec un croissant. Mais il va jamais nommer ce croissant. Et quand le danseur Hadi Boutrouche lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'autre lui dit, mais tu sais, le machin sur la mosquée, là. Il mime donc avec ses bras, puisque je vous rappelle qu'on est face à des danseurs aussi. Donc le spectacle est aussi très physique, très corporel, c'est très très beau. Mais il va jamais parler. Et donc il va lui dire, mais tu es bien musulman? Et l'autre va lui répondre, mais non, je suis chrétien. Que la même manière que lui dit, mais toi, ton village, là, d'où tu viens? C'est quoi ton village? Il y a un moment de silence. Et on va lui répondre, ben, de Tel Aviv. Et il y a toujours cette idée que le Palestinien, l'Arabe, vit dans le désert, dans ce petit village un peu pourri, avec une source et un puits au milieu du village, avec trois ânes et quatre moutons. Et donc c'est sur ça qu'appuie très fortement Hillel Kogan. Et donc il joue avec ces préjugés qu'on a, que les uns et les autres ont en Israël, sur les caricatures entre les Arabes et les Juifs. Et puis, il faut pas croire Hadi Boutrouche, il dit pas grand chose, mais dans son regard, dans son geste, on sent bien qu'il veut exister aussi par la danse, que Hillel Kogan à chaque fois veut le remettre en question. Oui, mais non, là, ce que tu me fais, ça va pas. Mais Hadi Boutrouche pourtant s'exprime, et parce qu'il est pas, bête, il sait bien que l'autre, son partenaire de danse, est en train d'essayer de le rabaisser, lui vole sa parole. Et puis il y a des scènes très très drôles où Hillel Kogan va dire, on va être, là il se moque de la danse contemporaine, on va être avec des objets. Et donc il sort un couteau et une fourchette, et devinez qui a le couteau? L'Arabe, bien évidemment. Et donc là, c'est une danse très très belle. Il faut savoir, pendant les moments de danse, moi j'ai été stupéfaite du silence qui a pu régner dans cette salle, alors que la danse se fait sans musique parfois, et que c'est absolument magnifique, et j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle écoute, ce qui n'est pas toujours évident. Mais ça vient de ces deux personnes qui sont sur scène et qui donnent vraiment envie de les écouter, de les regarder, de les suivre, de voir à la fois cette confrontation et ce mouvement de danse. Et puis il y a ce moment où moi j'ai vraiment, ça m'a rappelé des choses absolument vraiment qui existent vraiment en Israël, c'est le houmous. Parce qu'Hillel Kogan, il va sortir le houmous comme le lien sacré en Israël, parce que le houmous, c'est ce qui se partage. Et pourtant, même lui, il le dit. Il faut savoir qu'Hillel Kogan, donc, il est issu de parents qui viennent de Russie. Donc, le houmous, ça se fait pas là-bas. Et même lui, il va le dire. Hein, les Polonais, les Russes,
ils mangeaient pas ça.
Le pois chouche, ils avaient pas ça. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous allez en Israël, on va vous dire que le houmous et le falafel, ce sont des plats nationaux et identitaire. Ouais. Parce que Hillel Kogan nous parle beaucoup de l'identité d'Israël, des Juifs israéliens et des Palestiniens, c'est aussi de ça qu'il veut nous parler. Et donc, ils vont se barbouiller de houmous, qu'on pourrait se demander si c'est du vrai houmous ou si c'est un jeu du spectacle, juste ce qu'il le donne à bouffer quand même aux spectateurs. Donc on sait que c'est du houmous. Et ça devient très très drôle parce qu'il se moque finalement de ce qui peut se passer en Israël, de comment on mélange un peu tout, comment on fait une identité nationale qui n'est fondée sur rien du tout, puisque c'est un pays très communautariste. Comment aujourd'hui on a même une gauche bien pensante, intellectuelle, qui croit pouvoir tout savoir sur l'existence des Palestiniens, mais qui pourtant ne sait rien. Et c'est un très beau spectacle que nous propose Hillel Kogan, qui est à la fois danseur, interprète, acteur, qui vraiment nous propose 55 minutes de bonheur, de rire surtout, et ce qui est très rare dans les relations israélo-palestiniennes, il faut bien le dire quand même, parce que son ton moqueur est très attendrissant, moi je trouve, et que cette critique, c'est bien qu'elle soit portée, et qu'elle soit portée aussi par des artistes danseurs. Je trouve ça très très chouette, et sur un spectacle aussi simple, musicalement, au niveau de la scénographie et tout, c'est absolument magnifique. Et puis ça nous donne envie de manger du houmous et d'avoir la paix dans le monde quand même, il faut bien le dire. We Love the Arabs, Hillel Kogan, ça joue actuellement au théâtre de la Croix-Rousse. Et si jamais il n'y a plus de place, et bien en tout cas, c'est des artistes à suivre. Et donc, c'est avec Ali Boudrous.
Eh ben, on va poursuivre sur une autre, sur une expo qu'on est allé voir au musée des Confluences à Lyon. Vous savez, ce musée très très moche, là, très moderne, sur lequel nous n'avions jamais posé les pieds.
Alors, moi aussi, j'y avais déjà été, mais j'avoue que ça ne m'était pas rentré dans la mémoire, pour tout te dire. Voilà.
Donc, avec tout plein de scandales financiers et tout ça, mais ce n'est pas le but ici. On va parler donc de cette expo sur Hugo Pratt, qui s'appelle « Ligne d'horizon au pluriel ». Donc, une expo qui a commencé il y a quelques semaines et qui durera jusqu'à l'année prochaine, je crois. 4 mars 2019. Donc ça nous laisse un peu de temps, ou ça vous laisse un peu de temps pour aller la voir.
On sent que c'est une expo qui est faite aussi pour ne viser bien au-delà de la métropole lyonnaise. Il y a de la publicité absolument de partout. Bah, ne pas savoir qu'il y a cette exposition, il faut s'être bouché les yeux, il faut bien le dire.
Bah, je pense qu'ils cherchent aussi à recruter du côté de l'Italie puisque, ou de l'Espagne, puisque voilà, Hugo Pratt a une carrière internationale importante, il est italien.
Et puis c'est un voyageur lui-même.
Et du coup, l'expo est très bien faite pour ça, puisque ce musée, qui est un musée de découverte aussi, au départ c'est un musée des sciences naturelles, mais pas que ça maintenant, c'est d'ailleurs pas si important que ça les sciences naturelles dans ce musée, on a beaucoup perdu par rapport au musée Guimet avant.
Je sens la nostalgie de ta part aussi un petit peu. Ouais, je sens la nostalgie.
Et donc là, l'idée c'est de faire parcourir un peu le monde tel que l'a vu Hugo Pratt. Alors il faut dire qu'il est né dans les colonies africaines italiennes de l'époque, et donc il parle dans ses BD de plein de pays, donc évidemment de l'Afrique, notamment de l'Éthiopie, et puis il fait voyager ses personnages un peu partout. Il y a pas mal de BD qui se passent aux États-Unis d'Amérique, chez les Indiens notamment. Il y a une BD qui se passe au Canada aussi, qui doit s'appeler Dejujo. Enfin voilà, il y a plein de choses. Alors ils mettent, donc l'expo s'articule autour de deux concepts. En fait, il y a les planches, donc il y a plein de planches originales, donc ça c'est intéressant, on voit le travail du dessinateur. Il y a plein d'aquarelles. Là, on a moins l'habitude. Alors, si vous êtes fan d'Hugo Pratt, vous connaissez les aquarelles, mais ce n'est pas du tout les BD.
Oui, parce que les planches sont à l'encre de Chine, et puis à côté, effectivement, on nous propose aquarelles et pastels.
Voilà. Les planches, on rappelle, les BD existent souvent dans deux versions, la version noir et blanc et la version couleur. Et effectivement, il a fait ses aquarelles sur, beaucoup sur Corto Maltese, bien évidemment, mais aussi sur d'autres personnages. En parallèle de ça, le musée met à disposition des objets que les différents héros de BD de Hugo Pratt ont croisés. Donc on retrouve des masques, on trouve des masques africains, forcément, on trouve des pirogues d'Amérique centrale, puisque il va en Amazonie, il va chez les Incas, enfin là, sur les traces des Incas ou des Aztèques, Corto Maltese et puis différents héros. Et donc on voit un peu tout ça, ils ont agencé avec ces éléments issus des habitants traditionnels de ces régions, tels que Hugo Pratt a pu le dessiner dans ses BD. Du coup, l'expo est très intéressante, on voit à la fois les BD et on retrouve des masques. Tiens, celui-là, il y a presque le même dans tel BD. Voilà. Je trouve que c'est assez bien fait. C'est une bonne idée de découverte de cet univers d'Hugo Pratt. C'est un truc un peu particulier, une BD qui est assez datée, hein, qui date, qui pour nous représente presque avant les années 70, on va dire, qu'un immense dessinateur, mais qui est très loin de la BD actuelle, moderne, avec ses aplats de couleurs informatiques. Voilà. On est dans un truc beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus expressif, avec un minimum de traits, hein, parce que le dessin est beaucoup plus simpliste, on le sent plus vivant, plus énergique. C'est la tradition de la BD de cette époque-là. Il a commencé en Amérique du Sud, enfin voilà, il y a toute une tradition importante de l'histoire de la BD, hein, que représente Hugo Pratt, même si effectivement il est loin des standards actuels, puisque la BD a beaucoup changé, et pas forcément en bien d'ailleurs, hein, puisque maintenant c'est juste dynamique, on a l'impression de voir du cinéma dessiné des fois en bande dessinée aujourd'hui, dans une partie de la production de BD. Donc là, ça permet peut-être aussi à des gens qui connaissent pas Hugo Pratt, notamment aux jeunes générations, de découvrir cet immense dessinateur, hein, qui des fois avec trois coups de crayon fait ressentir quelque chose, alors qu'aujourd'hui on est obligé d'accentuer le trait, parce que le talent de dessinateur, on peut être très bon technicien et pas faire passer les choses. Hugo Pratt était pas forcément le meilleur technicien du monde, par contre c'était énorme la capacité qu'il a à faire passer des choses, puisque on est quand même dans de la BD, mais on n'est pas loin de l'illustration des fois, on n'est pas loin de l'art tout court. pas que le 9e art, hein, notamment dans ses aquarelles. Enfin voilà, c'est une très bonne idée pour découvrir cet immense dessinateur, très politique aussi. Hein. Alors même s'il suit pas mal l'armée, alors c'est pas trop mis en valeur dans ce truc, mais dans cette expo, il y a des BD qui sont où on suit des militaires. Il a toujours été fasciné un peu, Hugo Pratt, par l'armée, par la guerre. Mais pas fasciné, un peu fasciné comme les Tardis, c'est-à-dire pas fasciné par ce que ça peut représenter de gagner des victoires, mais de voir tout ce qu'il y a derrière la guerre, et de voir les gens qui la vivent, qui la font et qui en souffrent, en fait. Donc il y a ça aussi chez Hugo Pratt, qu'on voit pas mal, même si sa plus grosse BD, qui est Corto Maltese, c'est un. Alors c'est un marin, quand même, quelque part, un peu militaire, mais un peu anarchiste.
Mais très riche. Rappelons-le.
Et qui est riche, puisqu'il a des apparts un peu à différents endroits. Bon, c'est un truc qui n'est pas réaliste du tout, Corto Maltese. Hein, c'est de l'aventure. Hein, parce qu'il y a des moments, il parle. Ça doit être dans Mu, où il parle à un dessin qui bouge sur le mur parce qu'il a pris des trucs hallucinogènes. Et il y a plein de planches de cette BD où on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est complètement hallucinogène, c'est complètement barré. Et bon, voilà, parce que ça représentait aussi quelque chose. Voilà. C'est très très bien. Alors moi j'adore Hugo Pratt. Donc ça,
mais
ça
moi je
plaisir.
Trouve que c'est bien aussi parce que ça le remet en ce qu'il était aussi lui, un découvreur, un voyageur. Il avait ce petit côté anthropologue. Il aimait aussi collectionner des objets, Hugo ouais. Pratt. Donc c'est aussi assez intéressant de voir que derrière l'œuvre, derrière le dessinateur, on a quelqu'un qui savait à peu près de quoi il parlait, que quand il dessinait, il avait vu les choses, rencontrer des gens, et que c'était. Alors, c'est pas grave, moi j'aime bien quand les gens imaginent aussi. Mais on comprend mieux son œuvre, on comprend mieux son travail derrière aussi grâce à cette exposition. Et comme tu le dis, moi je pense que les plus jeunes prendront beaucoup de plaisir aussi, parce que c'est assez ludique, et puis avec des choses qui sont très très belles, comme sur les objets, les artefacts. On a un éclairage qui donne, moi j'ai trouvé une ombre dessous l'objet, et qui nous renvoie à l'ombre de la BD et au noir et blanc utilisé par Hugo Pratt, et je trouve ça très très chouette aussi, que c'est une très belle scénographie. L'exposition est assez courte, hein, donc pensez pas que vous allez y passer des heures.
Il y a quand même beaucoup de planches.
Ah oui, il y a beaucoup de planches à voir.
Planches,
mais avec des enfants, vous allez qui sont pas à hauteur des yeux des enfants, des plus petits, vous allez pas y passer des heures. Par contre, il y a beaucoup de choses, je pense, à accompagner derrière et à certainement offrir après. Une petite BD d'Hugo Pratt à vos enfants, si vous les emmenez pour accompagner cette exposition.
Un petit corto.
Voilà. Peut-être pas celle où il est en train d'halluciner, mais vous en trouverez bien une à votre goût. Quoi.
Exactement. Donc voilà pour cette rubrique culturelle. On va parler un peu de nucléaire maintenant et quelques petites infos, puisque aujourd'hui, c'est le triste 32e anniversaire de l'explosion de la centrale de Tchernobyl, qui est une centrale ukrainienne. C'était en 1986 que ça a pété. C'est considéré comme la plus grosse catastrophe nucléaire de l'histoire de l'industrie nucléaire. Alors, en termes d'émissions de pollution radioactive, pas en termes de capacité industrielle qui endommagée, puisque la plus grosse de ce point de vue-là, c'est Fukushima, hein, puisqu'on a trois cœurs de réacteurs qui fondent à Fukushima. Là, à Tchernobyl, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui ça s'est passé pendant la phase de test. Hein, ils font des essais, ils vont trop loin. Enfin, ça part mal. C'est une centrale neuve récente hein, à l'époque. C'était pas un vieux tromblon soviétique, hein, même si on était encore sur les soviétiques, puisque je vous rappelle, c'est 89 la chute du mur de Berlin, et on est en 86. Mais c'est une centrale moderne. Mais voilà, le nucléaire, ça reste fragile même quand c'est moderne. Et ça va exploser et on va avoir des dégagements de radioactivité très importantes. La Russie de l'époque soviétique va mettre du temps à le reconnaître, hein, puisqu'il faudra attendre un peu plus de 15 jours pour que Gorbatchev annonce officiellement qu'il y a eu un problème dans cette centrale nucléaire. On le savait bien avant, hein, puisque la Suède, qui est pas très loin, avait mesuré de la radioactivité, donc importante. On rappelle que le nuage a contaminé l'essentiel de l'Europe, sauf la France, hein, puisque grâce au gouvernement en place, donc c'était Jacques Chirac, Premier ministre, sous la cohabitation de mémoire avec François Mitterrand, et le responsable de la partie nucléaire au gouvernement, c'était Monsieur Sarkozy. Donc tous les trois, main dans la main et tout ce que vous voulez, ont annoncé que la radioactivité n'était pas allée en France. Conséquence première, c'est que les gens continuent à manger des légumes et des champignons dans les régions contaminées, ce qui était le cas un peu en Corse, un peu en Provence, alors que, donc voilà, il y a un vrai problème de santé publique. Ces gens-là ne seront jamais condamnés hein, pour ne pas avoir protégé les populations, malheureusement. Voilà. Les trois autres réacteurs à Tchernobyl vont continuer de fonctionner jusqu'en décembre 2000. On rappelle que la centrale est dans un tel état, l'explosion est... Alors d'abord, il faut rappeler que des soviétiques russes, essentiellement, se sont sacrifiés pour empêcher les, la centrale d'exploser encore plus. Ça a été incroyable, hein, ce qu'ils ont fait. Ils sont morts, hein, ils sont exposés à des doses très fortes pendant quelques secondes, quelques minutes, ça a suffi à les tuer. On n'a pas le bilan humain de mort, ça va jusqu'à 100 000 personnes, mais c'est des cancers sur le long terme, il y en a même en France qui sont liés à ça, donc c'est incalculable. Ce qu'on sait, c'est que la situation est toujours catastrophique. Un nouveau sarcophage au-dessus du précédent a été installé fin 2016, et puis il y a des chances que dans 50-60 ans, on installe un autre, etc. etc. Que, contrairement à Fukushima, il n'y a pas de possibilité pour l'instant mise en œuvre de déconstruction de la centrale accidentée. Alors, Fukushima, ils se donnent 50 ans pour y arriver, ils ne sont pas sûrs, mais au moins ils essayent. Alors que là, pas du tout, c'est totalement à l'abandon. Voilà. Voilà. Donc c'est ce triste anniversaire que je voulais citer. Sinon, un petit truc marrant, la centrale du Blayais a été arrêtée. Je lis le communiqué d'EDF. Mercredi 25 avril, 17h30, les équipes de la centrale du Blayais ont procédé à la déconnexion de l'unité de production numéro 4 du réseau électrique national. Cette déconnexion est destinée à effectuer un diagnostic sur le matériel situé dans la partie nucléaire des installations. Et c'est tout. Donc il y a eu un incident dans la partie nucléaire hier des installations d'une des tranches du Blayais, et c'est tout ce que dit EDF. Voilà, on espère que ça ne sera pas trop grave. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais faire juste quelques petites infos pour aller vite. La Corée du Nord, je ne sais pas si tu as vu, c'est officiel.
Ah oui, j'ai vu, ouais.
Donc quand ils ont fait le cinquième essai dans cette montagne, qui s'appelle le mont Mantap, les Chinois avaient dit on a peur que la montagne s'écroule, ils font des essais sous la montagne, et en fait c'est officiel, hein, aujourd'hui il y a deux études chinoises qui le démontrent, la montagne s'est écroulée en fait sur cette partie là donc il y a eu dégagement de la radioactivité, c'est comme ça qu'ils... Alors il y a ça et les secousses sismiques suite aux explosions qui ont permis de déterminer effectivement ça s'est effondré en fait, hein, sur la montagne, sur les trous que ça avait creusé au niveau avec l'explosion nucléaire, les explosions nucléaires. Ce qui laisse à penser que la dernière phrase de Kim Jong-un en disant on arrête les essais nucléaires,
ça soit lié à ça,
ça soit lié à ça, puisque le site semble inutilisable définitivement.
Mais enfin, on reparlera d'ailleurs de la Corée du Nord et de la Corée du Sud la semaine prochaine, puisque demain Nord et Sud se rencontrent dans la DMZ, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, on y reviendra jeudi prochain. On va pas s'avancer pour savoir si les mains vont se serrer avec amitié ou pas.
Voilà, je vais m'arrêter là pour le nucléaire.
Bah, tu pouvais continuer, hein, sinon, hein, nous parler d'Engie, hein, il nous reste 5 minutes.
4. Oui, 4. Alors,
allez, c'est parti. Bah,
sur Engie, c'était assez court. Il y a une centrale en construction en Turquie, une centrale nucléaire, donc avec un consortium français, avec Framatome, qui est allié à... à Mitsubishi Heavy Industries. Et là, on a une... C'est marrant comme ils ont honte, des fois. On a une entreprise japonaise qui faisait les études, qui s'appelle Itochu, qui a fait un communiqué en disant qu'ils n'intervenaient plus à partir de dorénavant sur ce site. Comme s'ils avaient honte d'intervenir. Ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'ils avaient fini leur travail. Et ce qu'on apprend, du coup, aussi, par la même occasion, c'est que dans ce consortium, il y a Engie. Et bizarrement, Engie, il y a pas longtemps, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient le nucléaire parce que c'était pas rentable, c'était pas bien, tout ça. Donc notamment en Belgique, ils vont fermer dans les années qui viennent les centrales qu'ils ont, et qu'ils abandonnaient, je crois, un projet en Angleterre. Et mais non, en fait, ils avaient, comme quoi ils disent pas toujours tout, ils avaient oublié qu'ils sont, Engie est partenaire de la construction de la centrale turque. Voilà. Donc Engie n'est pas sorti du nucléaire.
Alors moi, écoute, j'ai pas le temps de vous parler de Carrefour exactement en détail pour vous dire qu'il y a un accord qui a été trouvé avec les centrales sur le PSA, mais je vais vous donner cette bien bonne nouvelle. J'ai donc appris que la barre symbolique de la centaine de banquiers gagnant plus de 1 million d'euros vient d'être dépassée en France.
Bravo.
Alors oui, ça, c'est important. C'est les Échos, hein, qui a fait ce petit calcul. Alors on n'a pas encore les chiffres du Crédit Agricole. Mais j'imagine que du coup, ça va faire qu'améliorer la chose. On sait que par exemple, la BNP Paribas, il y a 47 financiers millionnaires, soit 9 de plus que l'an passé. À Natixis, il y en a 17. À la Société Générale, ils sont un peu moins. La dernière, ils étaient 42. Cette année, ils sont plus que 36. C'est bien, mais c'est moins bien que dans les autres pays où il y a un peu plus de millionnaires. Alors, il va falloir bosser, messieurs et mesdames, les banquiers, les banquières, pour être un peu plus forts et qu'on puisse, nous, en France, être fiers de vous quand
voilà,
même.
Voilà, Radio Canu, nous n'avons pas de millionnaires. Il nous reste une minute avant de laisser.
Ils sont bien cachés.
Ouais, de laisser la place à l'émission suivante. On va faire un petit agenda quand même avant de se quitter. Donc il y a un repas de soutien à l'Amphiz. Le repas de soutien a lieu à l'atelier des canulars demain soir. On sera le 27 avril à partir de 19h30. L'atelier des canulars, c'est dans le 7e de Lyon. Il y a, comme le disait Attaque tout à l'heure, les états généraux des migrations 28 et 29 avril. Donc une consultation citoyenne le samedi 28 avril à l'université Lyon 1. Alors c'est un bâtiment que je ne connaissais pas, qui est 8 rue Rockefeller dans le 8e au métro Grange Blanche. Donc ça doit être sur la fac d'infirmière de médecine, j'imagine. Et puis le dimanche, ils font la fête à l'Amphiz, au squat de l'Amphiz, donc 12 rue Baudin à Villeurbanne, de 13h30 à 22h, il y aura des choses à manger, des chanteurs, etc. Un truc plutôt festif. Samedi, Radio Canu diffuse normalement la troisième partie des émissions de la caravane Nina, ça veut dire ni ici ni ailleurs. Donc c'est samedi de 14h à 15h contre les Center Parks, ces espaces touristiques qui détruisent la nature et qui l'artificialisent. Et je voulais terminer par un truc dont tu m'as parlé, c'est le colloque international qui s'appelle Théoriser en féministe, vous allez écouter la phrase que je vais dire, s'appelle « L'objectif de ce colloque est d'explorer les spécificités de l'impureté du théorisé féministe, toujours en commerce avec son dehors, ainsi que ses manifestations au sein des modèles épistémologiques dans les différentes disciplines. » J'ai pas compris la phrase, je sais pas ce que c'est. Alors faire des colloques qui s'adressent à les 0,02% de la population qui est capable de comprendre cette phrase, je trouve ça très discriminant. Mais si vous avez compris la phrase et que vous êtes concerné, ça a lieu à Lyon 3, à l'IEP et à l'ENS du 25 au 27 avril. Est-ce que tu avais compris cette phrase, toi? Je crois pas. Hein.
Non, pourtant, j'ai fait des études, mais je devrais aussi, peut-être ouais. Y retourner, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais après, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est juste
eh ben non,
que, du
c'est
coup.
C'est juste dire que la phrase est réservée aux spécialistes, en fait.
Mettez sur le blog, n'hésitez pas à nous expliquer. Moi, après, sur Rebellion, il y a un vrai texte, hein,
oui,
explicatif.
Oui, le texte hein, en dessous.
Je vous invite à aller le lire, d'ailleurs. Ça peut faire du bien à tout le monde et qu'on soit un peu plus performant aussi et qu'on sache parfois être un peu plus. Intellectuel. Il n'y a pas de honte à ça. Bien au contraire, il faut savoir reconnaître quand on ne comprend pas quelque chose. C'est ce qui est notre cas ce soir. Voilà, on vous laisse parce que c'est l'heure
de la petite cuillère.
Ciao, ciao.